Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Microécriture. Je suis Élise Giraudeau et mon premier roman, La vie en turquoise, qui est un roman contemporain engagé, va être publié en avril 2024 aux éditions Les Arts des Mots. Dans ce podcast, vous retrouverez tout mon parcours avec l'écriture, des conseils d'écriture et aussi le journal de bord de mes publications. Mais nous allons aussi parler de santé mentale, de résilience, d'écriture thérapie, de motivation et de bien-être en général. Si cela vous plaît, n'hésitez pas à écouter l'épisode. À bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Microécriture. Aujourd'hui, je suis avec Graian, un auteur auto-édité qui va clôturer sa saga le 1er mars avec la sortie de son tome 3. Donc je suis ravie de le recevoir, sachant que si vous me suivez depuis le tout début de Microécriture, il était déjà venu sur le podcast dans l'épisode 13. On vient de regarder juste avant de commencer le podcast, donc si vous voulez en savoir un peu plus sur son parcours, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode 13. Petit disclaimer, nous sommes le 9 février, on a lancé ma maison d'édition les précommandes de mon roman La vie en turquoise. Hier, je n'ai pas dormi de la nuit, du coup, je vais sûrement dire n'importe quoi, j'ai déjà bégayé depuis le début de cet épisode. Deuxième disclaimer, je suis chez mes parents, donc si vous entendez un chien aboyer, eh bien c'est Rona, voilà, je pense que vous avez l'habitude. Et après cette intro beaucoup trop longue, je te dis coucou Graian ou Maxime, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien et que tu es content d'être sur le podcast.
Eh bien écoute, merci de me recevoir une nouvelle fois, je suis très heureux d'être ici avec toi aujourd'hui, enfin ici. Par micro interposé.
Oui. Bah donc, écoute, super. Oui.
Voilà, et puis bah écoute, je trouve que tu n'as pas trop bégayé jusqu'à présent, ça va.
J'ai quand même dit au jour suis au lieu d'aujourd'hui.
Ouais, mais ça, pourquoi pas le dire, comme ça les gens, ils vont pas attention.
Yes, bah écoute, je vais te laisser te présenter à nouveau, parce que je suppose que entre l'épisode 13 et l'épisode, je ne sais pas le combienième ce sera là, quand je vais sortir ton épisode, il y a des nouveaux et des nouvelles arrivantes sur mon podcast, donc je te laisse te présenter.
Écoutez, moi c'est Graian du coup, ou Maxime, pour ceux qui me connaissent personnellement. Donc je suis un auteur auto-édité depuis 2021, j'ai sorti 3 romans et le 4e devrait sortir prochainement. Donc, qui sera le 3e tome de ma saga fantasy Bratar Solas. J'ai également sorti un one-shot, donc c'est un drame contemporain qui se passe dans la plus belle ville de France. J'ai nommé Dunkerque. Et je ne dis pas ça parce que je suis dunkerquois. Et puis sinon, mon parcours, voilà, il a été fait de haut, de bas. J'ai pas mal de galères, d'erreurs qui ont été faites. Qu'il faut mettre ça sur le compte du manque d'expérience. On apprend de ses erreurs, et je suis un fervent défenseur de ça, qu'il faut apprendre de ses erreurs, et que l'auto-édition, bah, c'est peut-être le domaine le plus adéquat justement pour apprendre de ça.
Je le répète tout le temps, mais je suis tellement admirative des autoristes auto-édités. Un grand respect à vous, parce que là, je vois en maison d'édition, déjà, c'est un travail monstre, mais alors gérer en plus tous les autres aspects que vous faites, vraiment, waouh, voilà, c'est pour ça que j'essaie d'acheter au maximum des romans aussi de personnes auto-éditées, parce que, bref, voilà, c'est un vaste sujet l'auto-édition, ouais. Mais du coup, tu vas nous en parler. Ouais, non, il y a vraiment énormément de travail, ça, c'est waouh. Du coup, est-ce que tu peux nous retracer un peu ton parcours, donc avec tes 3 premiers romans déjà sortis, et nous parler du coup du 4e qui va sortir, tu nous as dit, le 1er mars.
Alors moi, du coup, mon aventure dans l'écriture, elle a commencé dans une petite maison d'édition, donc vraiment une petite structure locale, mm-hmm. où ils ont édité du coup le premier tome de Bratar Solas. Mm-hmm. Donc voilà, ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier, de me donner confiance surtout, parce que voilà, moi au début, j'ai proposé ce texte-là, croyais pas trop, je me dis ouais, pourquoi on me lirait moi plus qu'un autre. Mm-hmm. Mais du coup, ça a plutôt bien marché chez lui, même si voilà, les ventes, c'était une petite structure, hein, donc on a dû en vendre entre 250 et 300, j'étais déjà très très, très content. Mm-hmm. Mais je me rendais compte aussi, par rapport à l'édition traditionnelle, que ça ne me convenait peut-être pas totalement, que je sentais que je n'avais pas le plein contrôle sur le roman, et notamment sur moi, la couverture, qui à l'époque ne me plaisait pas du tout. Mm-hmm. Et du coup, j'ai fait ce choix de partir en auto-édition à partir du tome 2. Du coup, j'ai pu récupérer mes droits facilement. Vraiment, je remercie mon éditeur de l'époque. Voilà, même si on avait des différences sur certains points, bon, en tout cas, voilà, il m'a donné vraiment ma chance et puis il m'a laissé repartir sans problème. Donc, à partir du tome 2, donc en 2021, j'ai pu republier les deux premiers tomes en auto-édition. Après le tome 2 de Brattard Solas, j'ai voulu faire une coupure et j'ai écrit un one-shot, donc un drame contemporain qui se passe à Dunkerque, voilà, parce que je voulais écrire autre chose et je voulais me lancer un défi. Et du coup, me lancer un défi, je me suis dit, tiens, autant écrire dans un genre que je ne maîtrise pas. Et le drame, bah, voilà, c'est avéré être un domaine dans lequel je n'excellais pas au début. Puis à force de travail, bah, ça a fini par donner un roman qui marche plutôt bien. Et là, j'ai fini du coup ma saga il n'y a pas si longtemps que ça, même si j'ai mis un peu de temps pour l'écrire, parce que je ne suis pas un auteur, on va dire, hyper productif. Hein. Je n'écris pas 5000 mots par jour. Parce qu'avec un boulot à côté et d'autres choses à prendre en compte, bah, du coup, voilà, moi, j'écris à un rythme assez lent, entre guillemets, ce qui fait que j'arrive à produire, on va dire, à peu près un roman par an. À peu près.
Bah, c'est déjà bien.
c'est déjà bien. Après, voilà.
C'est déjà vraiment bien, déjà.
Voilà, après, il y a toute la réécriture, la correction, voilà, parce que j'essaie de faire les choses bien.
Ouais.
Donc, voilà, notamment en faisant appel à des professionnels aussi pour mes bouquins, que ce soit correcteur, maquetteur, illustrateur, plein d'autres choses. Après, distributeur aussi. Enfin, voilà, je passe par plein de professionnels qui maîtrisent certains aspects beaucoup mieux que moi, notamment l'illustration, où moi, à part des bonhommes bâtons, bah, je ne sais pas faire grand-chose. Donc, du coup, je fais appel à des gens qui, eux, savent dessiner. Voilà. Ouais.
Ok, ben c'est top. Enfin, moi, j'admire beaucoup ton parcours.
Merci beaucoup.
Puisque je le suis, ben, je fais grave l'ancienne, mais tu étais là à l'épisode 13 quand même. Donc... Ouais,
je fais partie des meubles, quoi. Je fais partie des anciens.
Carrément, tu fais partie des fondations du podcast. Et c'est vrai qu'on s'est connus au tout début. Enfin, pas au tout début, mais quand même quand je m'étais lancée sur Bookstar depuis pas très longtemps quand même. Donc...
Oui, non, c'était assez récent. Ouais. Après, ouais, c'est vrai que tu as décollé très, très vite. Hein, donc, c'est vrai que là, ouais, au début, voilà, je te voyais très proche. Et puis après, tu me voyais peut-être de loin dans ton rétroviseur. Après.
Mais pas du tout. Est-ce que j'ai... Mais pas du tout. Regarde, tu es toujours là sur le podcast. Donc, vraiment,
oui, ouais. Oui. C'est... Non, mais bon, franchement, je suis admiratif aussi du travail que tu fournis. Hein, parce que mine de rien, c'est... Le contenu que tu proposes, même les podcasts, voilà, c'est toujours intéressant. Et puis, bah, c'est pas évident, je pense, à faire et puis à monter. Donc, bah, franchement, chapeau pour tout ça. Hein. Chapeau pour tout ça.
C'est gentil, mais aujourd'hui, nous sommes là pour te saucer toi, Grian. Et saucer ton parcours. Mais c'est gentil. Du coup, donc, tu viens de nous dire que tu as terminé ta saga. Donc, est-ce que tu peux nous repitcher Brattard Solas pour les personnes qui ne connaîtraient pas ta saga?
Bien sûr, c'est vrai que j'aurais peut-être dû le faire avant.
Non, mais t'inquiète pas, c'est dans le déroulé de l'interview, il n'y a pas de souci.
Alors du coup, dans Brattard Solas, on va suivre donc Ethan, qui est un adolescent de 17 ans au début du roman. Donc il se retrouve emmené bon gré mal gré jusqu'à Brattard Solas, donc qui est un royaume où règne la magie, et où on le désigne comme étant la réincarnation d'un ancien prince qui avait été porté au rang de légende des siècles plus tôt, au cours d'une guerre à laquelle Ethan doit mettre un terme aujourd'hui. Sauf que bah, lui, clairement, à part les jeux vidéo et les comics, bah, y a pas grand-chose qui le passionne. Pour lui, c'est pas vraiment l'homme de la situation, hein, et puis il se sent pas vraiment concerné. Mais on lui laisse pas trop le choix, on lui dit bah, « Écoute, mon grand, t'es bien gentil, bah, attends, t'es sur une île, tu sais pas comment t'atterris ici, donc bah, bon courage pour en sortir.
»
Donc il fait plus ou moins ce qu'on lui dit, hein, en gardant toujours dans le coin de son esprit bah, l'éventualité de pouvoir se sauver s'il peut. Et il se retrouve à devoir suivre une formation, voilà, pour devenir, une initiation plutôt, pour devenir l'homme de la situation. Et au fur et à mesure de cette initiation, bah, il se rend compte qu'effectivement, il a un pouvoir très sombre au fond de lui, plein de secrets, assez pervers, qui, voilà, il ne comprend pas tout ce qui lui arrive. Et il se rend compte que ce pouvoir, plus il l'appréhende, plus il ne le contrôle pas. Et surtout que ce pouvoir pourrait être lié au cauchemar qu'il théorise depuis qu'il est tout petit, qui l'empêche de dormir. Et des cauchemars qui, du coup, pourraient signifier tout autre chose.
C'est très mystérieux et en même temps, bien envie de lire. Du coup, ça, c'est le pitch de la saga en général.
C'est une saga qui vraiment... Bah, j'en parlais du coup, notamment avec mes bêta-lectrices, dans la discussion qu'on avait sur Instagram, comme quoi cette saga-là, c'est mes premiers romans, c'est ma première saga. C'est vraiment un condensé de tout ce qui me passionne, en fait. Hein. Vraiment, il y a des références... Donc, à certains mangas, au Seigneur des Anneaux, à Stargate, au Marvel. Enfin, vraiment, c'est un condensé de tout ce qui me passionne. Mm-hmm. Arrangé à ma sauce, hein, bien sûr. Il n'y a pas un vaisseau spatial en plein milieu du roman, hein, mais... Mm. Mais voilà, en gros, c'est plein de petites références, de petits clins d'œil à tout ce qui a bercé mon adolescence et puis bah, tout ce qui me passionne encore aujourd'hui, de toute façon.
Ok, trop bien. Et du coup, donc, tu as commencé à l'écrire quand, cette saga ?
Il y a très très longtemps. C'est une professeure de français quand j'étais au lycée. Donc voilà, même si pour moi, je suis encore jeune dans ma tête, bah, voilà, je peux bien avouer que je ne le suis plus tant que ça. Et du coup, bah, c'était, ouais, donc là j'ai 31 ans, c'était quand j'avais peut-être 16 ans que j'ai commencé à l'écrire, 16-17. J'ai commencé à l'écrire, ouais, tranquillement. Le premier tome, j'ai peut-être mis 7-8 ans à l'écrire. Je l'ai réécrit 6-7 fois. C'était vraiment un passe-temps. Et puis les tomes 2 et 3, je les ai écrits à la suite. Et puis, j'ai pris à peu près 8 mois à écrire chaque tome, à peu près, le tome 2 et 3.
Ok. Très bien. Et tu l'avais planifié depuis le début, enfin, tu savais que ce serait une trilogie depuis le début ou pas ?
Alors au début, pas du tout, parce que vraiment c'était un passe-temps. Je savais même pas où est-ce que j'allais exactement, je connaissais même pas la fin. Mmh. Et puis au final, plus j'avançais dans le tome 1, plus je réfléchissais du coup à l'intrigue. Et plus je me suis dit, bah, en fait, en un tome, ça sera pas possible, faut que j'en écrive plusieurs. Et après, voilà, moi je fais partie, en tout cas pour ce projet-là, des auteurs jardiniers. C'est-à-dire que j'avais... Ouais. Du coup, à la fin du tome 1, j'avais vraiment la fin de la saga en tête. Mm-hmm. Mais on va dire, tout ce qu'il y avait au milieu, je ne l'avais pas vraiment. Quoi. C'était vraiment... Les tomes 2 et 3, je les ai vraiment écrits au feeling. Ou alors, j'avais vraiment un... Comme j'appelle moi, un bébé plan. C'est vraiment un tout petit plan qui tient sur une feuille. Quoi.
Mm. Ok.
Voilà.
D'accord, ok. Et du coup, donc, voilà, donc tu as écrit le tome 1, le tome 2, le tome 3. Donc, du coup, là, tu l'as terminé fin 2023.
C'est ça, ouais, j'ai fini toute fin 2023 et je l'ai envoyé aux bêta-lectrices dans la foulée. Ouais.
Ok.
Je l'ai fini début décembre, il me semble.
Ok. Et comment tu as fait ? Est-ce que tu avais repris un peu toutes les portes que tu avais ouvertes pour être sûr de bien refermer toutes les lignes d'intrigue ? Où tu as vraiment, comme tu nous disais, tu as terminé au feeling, mais bon, je suppose que tu as quand même un peu réfléchi à terminer toute ton intrigue. Quoi.
Effectivement. Alors, en fait, quand j'ai fini, du coup, comme j'ai écrit le contemporain entre le tome 2 et le tome 3, ce que j'ai fait avant d'entamer l'écriture du tome 3, c'est que j'ai relu les deux premiers.
Ouais.
J'ai relu les deux premiers tomes pour vraiment avoir vraiment toute l'histoire en tête, même si je l'avais déjà en tête, mais avoir tous les détails. Mmh. Et pour être sûr qu'il n'y ait pas de questions qui restent en suspens. Mm-hmm. Parce que voilà, même si j'avais toutes les questions, j'avais tout en tête, hein, j'ai tout réécrit quand même sur une feuille avant d'attaquer le tome 3, toutes les questions auxquelles je devais répondre. Mm-hmm. Et je les ai inclus au fur et à mesure de mon écriture. Bah, voilà, quand je sentais que c'était le moment d'aborder une certaine question ou une autre, bah, j'insérais dans le récit. Du coup. Mm-hmm. Et du coup, ouais, j'ai veillé à ce qu'on réponde à tout. Il y a notamment, c'est un point qui m'a fait un peu sourire, notamment vis-à-vis des bêta-lectrices. C'est que dans le tome 1, je me suis amusé à ce qu'un personnage qui peut apparaître très secondaire, voire lambda, dise une phrase qui, dans la conversation, il n'y a rien d'étonnant, mais on peut l'interpréter d'une autre façon et qui laisse supposer qu'on pourrait le revoir plus tard. Okay. Et effectivement, ce personnage a un rôle clé dans le tome 3, il revient et en fait, sur les 6 bêta-lectrices, il n'y en a pas une qui l'a vu venir. Quoi. Donc j'étais assez fier de moi.
Ah, pas mal. Ok, très bien. Et du coup, qu'est-ce que ça a fait de terminer une saga ? Surtout que, moi, je sais que j'avais commencé Idélia, je pense que c'est le roman sur lequel j'étais quand tu m'as connue, sur Booksta. Et puis, ma saga est planifiée, elle n'a jamais été écrite. J'ai l'impression que je parle de ça dans chaque épisode de podcast, c'est affolant.
Mais du coup, t'as quoi de faire, hein ?
Non, mais elle n'est pas écrite, c'est ça le truc. Du coup, je me demande... Du coup, qu'est-ce que ça fait de terminer, surtout qu'en plus, si tu as commencé à l'écrire et à penser à cette histoire à 15-16 ans, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as écrit le mot fin ou je ne sais pas si tu as peut-être écrit la dernière scène. Enfin, en tout cas, quand tu as écrit le dernier mot, posé le dernier point, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Est-ce que tu étais soulagée, triste, un mélange de tout ?
Justement, c'était un mélange un peu de plusieurs sentiments. Voilà, au cours de l'écriture du tome 3, j'avais... à la fois d'arriver à la fin, parce que là, je finis de raconter mon histoire. Mmh. Mais en même temps, je redoutais un petit peu, parce que je voulais aussi que ce dernier volume soit vraiment le plus parfait possible, qu'il soit meilleur encore que les deux premiers. Mmh. je pense l'avoir réussi en tout cas, dans mon sentiment. Moi, je trouve que vraiment, je me suis beaucoup amélioré sur le style sur ce troisième roman, troisième volume plutôt. Mais d'un autre côté, ouais, je le redoutais aussi parce que, bah, mine de rien, j'ai quand même grandi avec tous ces personnages-là. Je veux dire, je les connais depuis, depuis que j'ai 15 ans, quoi, 15-16 ans. Et là, j'en ai 31. Donc, je veux dire, j'ai passé la moitié de ma vie avec eux.
Bah ouais, carrément.
Bah ouais, c'est ça. Puis ça fait quand même bizarre de se dire, à la fin, c'est fini, quoi. Après, là où je suis partagé, mais je me suis laissé plus ou moins une porte de sortie, c'est que moi, j'ai créé un univers entier. Donc avec une carte, tout ça, et puis les héros principaux de l'histoire, les personnages principaux qu'on suit, ils voyagent dans ce monde-là, donc ils voient plusieurs pays, plusieurs peuples, des coutumes différentes, etc. Sauf qu'on voit pas tous les aspects de cette carte-là, en fait, ils n'ont pas voyagé partout. Donc ce qui fait que ça me laisse l'opportunité d'aborder peut-être des peuples qu'on n'a pas vus, des pays qu'on n'a pas vus, avec une autre histoire qui se déroulera dans cet univers-là, mais qui ne sera pas liée à Bretter Solas, parce que pour moi, Bretter Solas, c'est fini. Mais en tout cas, ça me laisse l'opportunité plus tard de pouvoir revenir dans cet univers-là si vraiment je me sens trop nostalgique, quoi, par exemple.
Parce que
clairement, je vois un peu cette fin de saga comme un adieu, entre guillemets. Mais en même temps, c'est un adieu qui a plus le goût d'un au revoir, quoi, pour me dire que je pourrais y revenir plus tard si je le souhaite. Et puis puis j'avais aussi à cœur de pouvoir partager enfin la fin de cette histoire avec mes lecteurs des premières heures et puis voir si j'ai réussi à les surprendre, tout simplement.
C'est trop bien. En même temps, c'est un accomplissement assez énorme. Enfin, je le dis tout le temps, mais je respecte vraiment les gens qui terminent leur saga. J'espère qu'un jour, je pourrai en dire autant. Mais c'est trop bien. Mais du coup, je pense que tu vas peut-être nous faire un peu une aurore, puisqu'elle elle a 10 000 idées de spin-off, de préquels et de séquels dans son univers. Du coup, est-ce que tu as déjà des idées de... Enfin, alors, tu nous as dit, oui, que tu te laissais cette porte, mais est-ce que tu as déjà des trucs assez précis dans ta tête?
Alors, j'ai quelques idées en tête, effectivement, notamment des spin-offs sur des personnages que j'aimais beaucoup et qu'on n'a pas forcément beaucoup vu dans la saga. Après, je sais qu'actuellement, ce n'est pas dans mes projets immédiats. Parce que ce que j'aime bien faire quand j'écris de nouvelles histoires, c'est de me lancer dans un nouveau genre. Genre là, par exemple, j'ai fait la fantasy, après ça j'ai fait du drame contemporain. Et là, ce que je suis en train de réfléchir à un roman, donc que pour le moment j'ai appelé Projet Océan, parce que j'ai pas encore de titre et puis j'ai pas trop envie de donner pour le moment. Et ce sera un thriller fantastique, un autre registre avec une enquête policière, tout ça. Donc là, du coup, je me suis transformé en auteur architecte. Du coup, comme il y a une enquête policière, faut que les indices qu'ils aillent bien ensemble, quoi. Et que je puisse orienter le lecteur dans la mauvaise direction.
Ok. Trop bien, franchement, j'ai hâte de suivre ça aussi sur... je crois que j'ai jamais entendu ce genre...
Un thriller fantastique.
Ouais.
En fait, moi, c'est ce que j'en avais lu un que j'avais adoré, de Stephen Chbosky. Je sais pas si ça se dit comme ça.
Okay.
Où il avait mélangé les deux genres et j'avais beaucoup aimé. Du coup, j'ai envie d'essayer d'écrire une histoire aussi où je mêlerai ces deux genres-là. Alors, peut-être que je vais lamentablement échouer, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est mon projet. Après, je verrai bien ce que ça va donner à la fin. Mais en tout cas, je pars confiant, puis on verra bien ce que ça donne.
Oui, carrément. Ok, trop bien. Et t'en es où, là, à peu près, du coup, de ce projet-là?
Du coup, là, j'ai acheté un grand tableau blanc où j'ai mis plein de post-it. Et là, du coup, j'ai fini, on va dire, le plan avec les post-it. Et là, je suis en train de rédiger sur des feuilles A4 vraiment le plan de chaque chapitre. Alors, ça prend du temps parce que du coup, j'y étais pas habitué à faire ça, à faire un plan aussi détaillé.
Ouais.
Donc, peut-être que j'y prendrai goût pour les romans à venir, ou peut-être que justement, ça m'aura dégoûté définitivement et que je vais revenir à ma pelle et à mon râteau pour redevenir jardinier. Et puis voilà.
Ok, écoute, tu nous diras ça. Ok. Écoute, cool. Franchement, je suis super contente d'entendre tout ça. Par rapport à Bretter Solas, du coup, comment ça va se passer pour toi, cette fin de saga? Donc, tu vas faire une campagne Ulule pour financer ce tome 3.
Alors voilà, donc déjà, il y a plusieurs choses qui vont changer. C'est que déjà, moi j'avais passé pour les tomes 1 et 2, j'avais fait faire les couvertures, mais je me suis rendu compte qu'elles ne fonctionnaient pas en salon, que les gens ne venaient pas d'eux-mêmes. et que bah fallait que je les que je les interpelle et que je leur explique l'histoire pour qu'ils soient intéressés. Du coup là je fais refaire les couvertures des tomes 1 et 2.
OK.
Plus celle du 3. J'ai hésité à le faire parce que je me suis dit ouais mais pour ceux qui ont déjà acheté les bouquins, ils vont pas avoir la même couverture, c'est pas cool. Et du coup bah j'y trouve enfin on m'a suggéré l'idée que j'ai adopté tout de suite de faire des d'offrir des jaquettes en fait du coup pour les tomes 1 et 2 avec les anciennes couvertures.
Okay.
Donc c'est ce que je ferai au cours du coup de la campagne Ulule qui se déroulera surtout le mois de mars. Et où voilà bah, voilà, c'est un gros pari, un gros pari que je prends parce que les deux premières campagnes que j'avais fait pour les sorties du tome 1 et 2 avaient toujours rempli leur objectif. Mais là, voilà, j'ai envie de, quoi dire, de monter un peu en gamme, en tout cas de proposer des packs plus complets avec plus de choses qui, voilà, qui me feraient plaisir pour développer mon univers. Notamment des impressions des portraits des personnages sur des. Alors, au début, je pensais à des posters, mais je veux dire, le dommage, c'est que les posters, ça s'abîme vite. Du coup, là, je voudrais faire de l'impression sur PVC.
Ok.
Donc, pour faire des panneaux rigides, en fait, avec l'impression des personnages pour ceux qui souhaiteraient l'acquérir dans le pack. Mais du coup, là, c'est pareil, ça demande plus de frais, plus de fonds. Donc, voilà, j'essaie de préparer une campagne qui puisse marcher le mieux possible. Et puis, bah, on verra à la fin du mois de mars si ça a bien fonctionné. Mais en tout cas, voilà, je prends le pari. Puis voilà, je me dis, si on ne prend pas de risque, ben on n'arrive jamais nulle part.
Ah oui, oui, c'est sûr. Ok, bah, franchement, c'est hyper audacieux, mais hyper cool. Franchement, je suis. J'ai pas les mots. je trouve ça vraiment top. Ok, trop bien. Bah, j'espère en tout cas que ces nouvelles couvertures, j'ai hâte de les découvrir. Elles pourront fonctionner. Je croise les doigts derrière mon écran, ça sert à rien, tu me vois pas, mais je suis en train de parler, en train de croiser les doigts.
Alors là, du coup, là aujourd'hui, on est le 9 février quand on enregistre. J'ai déjà reçu, du coup, les couvertures des tomes 1 et 2.
Ouais.
Donc, pour la précision, c'est Amandine Peter, je sais pas si tu connais.
De nom, oui.
Donc voilà, qui me fait mes couvertures, c'est elle aussi qui illustre les romans une partie des romans de Explora. Et du coup, j'ai déjà soumis les deux premières couvertures à mes bêta-lectrices qui sont très emballées. Elles sont vraiment emballées, donc pour moi, voilà, même moi, je les aime beaucoup, donc je me dis, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et puis, j'ai hâte de recevoir la couverture du 3 pour pouvoir aussi faire des covers reveal sur mes réseaux. Quoi.
Grave, on attend avec impatience. Ok, trop bien. Écoute, tout ça, franchement, c'est cool. J'espère vraiment que ça va fonctionner pour toi parce que je sais que l'année... Alors, je pense que c'est l'année dernière. T'as eu on va dire une baisse de régime. Je sais pas comment t'appelles ça, toi, dans ta tête. Mais du coup, en tout cas, de ce que tu nous avais partagé, t'avais eu une baisse de régime par rapport à l'écriture, par rapport à tes romans, par rapport à l'auto-édition. Et du coup, je sais que tu es d'accord pour qu'on en parle. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé et comment tu as fait pour te remotiver et remettre le pied à l'étrier et puis là, envisager toutes ces belles choses?
Alors, on va dire que moi, qu'on soit en 2024, j'avais hâte. Parce qu'on va dire que j'ai vécu vraiment une année 2023 qui n'a pas été simple du tout. J'ai vécu pas mal de choses assez traumatisantes pour certaines, en tout cas. Que ce soit dans mon boulot, parce que voilà donc, de toute façon, j'ai pas honte de le dire, je suis gendarme dans la vraie vie. Et j'ai vécu des choses en intervention qui font que ça m'a vraiment traumatisé. Après, je vais pas rentrer dans les détails. Et à côté de ça, plusieurs drames aussi dans la famille, et puis des mauvaises nouvelles qui sont cumulées tout au long de l'année, qui vraiment, je suis arrivé à la fin de l'année, j'étais très démotivé parce que il y avait notamment cet aspect-là, du coup, tous les drames et toutes les mauvaises nouvelles qui m'arrivaient dans ma vie personnelle. Et aussi, du coup, le fait qu'en auto-édition, c'est compliqué, que j'arrivais pas à, pas être rentable, c'est pas le mot, mais en tout cas, j'arrivais juste à équilibrer les comptes, c'est déjà bien. Mais c'est sûr que moi, je caresse toujours le rêve de pouvoir un jour en vivre. Et puis, du coup, c'est vrai que le fait que ça décolle pas, que j'avais l'impression de stagner en fait complètement. Que tout ce que je pouvais mettre en place, ça fonctionnait pas, que je faisais des posts sur réseau où je passais du temps, ça fonctionnait pas non plus. Donc sur ce moment-là, j'avais aussi un peu des œillères avec tout ce qui se cumulait autour. J'ai pris du recul, je me suis questionné, je me suis dit si ça marche pas, c'est que le problème vient de toi sûrement. Et effectivement, le problème venait de moi, donc j'ai essayé de réfléchir sur ma communication, sur ma façon de faire, sur les posts que je faisais, essayer de faire des sujets qui... Et justement, quand j'en parlais avec des amis, au final, je mettais trop de distance entre mes abonnés et moi, où en fait je parlais pas assez de mon côté perso, et qu'apparemment c'est ce qui intéresse aussi, hein, sans qu'on rentre dans du voyeurisme, mais que on va dire que je me dévoile un peu plus.
Ouais.
Donc c'est pas encore ça aujourd'hui, j'y travaille, petit à petit j'essaie d'en donner plus, ne serait-ce que les stories, hein, c'est quelque chose auquel je pense pas. Où je me dis, bah, c'est après coup, je me dis, putain, ça aurait été con, j'aurais pu faire une story là. Mais en fait, j'y pense pas, c'est parce que j'ai pas ce réflexe là. J'essaye de travailler dessus pour l'avoir et puis pour développer aussi mon activité. Et puis le fait de voir qu'effectivement, bah, que le contenu que je poste récemment plaît, que je pense avoir de plus en plus de réactions, bah, ça, voilà, ça me conforte dans l'idée que le problème devenait de moi et que finalement, bah, avec du travail, on peut toujours surmonter ça et que ça ne peut que s'améliorer. Et c'est là-dessus où vraiment ça m'a reboosté, ça m'a donné envie d'aller. De progresser. Et c'est ce qui m'a aussi donné la force d'aller au bout de mon tome 3, parce que clairement je retardais l'écriture, je remettais toujours tout au lendemain, quoi.
Oui, je comprends. Ok, bah, franchement c'est cool, parce que c'est vrai que ça m'avait fait de la peine, parce que tout à l'heure tu me disais, oui, tu devais me voir loin dans ton rétroviseur. Pas du tout. J'étais vraiment hyper peinée quand t'avais envoyé le message sur le groupe là. J'étais en mode non, Yann, reste, continue. Mais du coup, je suis vraiment contente que tu aies pu rebondir et proposer tout ça. Enfin, je fais que me répéter, ça n'a aucun sens. Mais du coup, je suis vraiment contente pour toi. J'espère vraiment que tout va mieux se passer et que, voilà, tu le mérites en tout cas. Donc, c'est.
En tout cas, croise les doigts
encore derrière mon écran.
En tout cas, l'année 2024 commence beaucoup mieux que comment c'est fini 2023. Donc, c'est déjà bien.
Ok, ah voilà. Bah c'est cool.
Ça. Là, c'est aussi le passage de la nouvelle année. Voilà, je me suis dit, bah, j'ai un peu vécu ça aussi comme un renouveau. Où je me suis dit, bah, voilà, en grosso modo, cette année, c'est mon année. Hein. Mais voilà, que pour me dire qu'il fallait que je rebondisse et puis un peu laisser tout ce qui s'était passé l'année dernière, on va dire, derrière moi.
Ok, bah, écoute, top, franchement. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter là, puisque là je sais que l'épisode, je le sais, oui, parce que c'est moi qui veux le faire, va sortir pendant ta campagne Ulule. Qu'est-ce qu'on peut faire pour te soutenir? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup, et comment on peut faire pour t'aider à y arriver? Voilà.
Alors du coup, va me souhaiter que la campagne cartonne, ce serait le top. Alors justement, j'ai pensé à, parce que voilà, moi le premier, je sais qu'il y a plein de campagnes Ulule. Notamment faut dire d'amis auteuristes qui sortent, et que parfois je peux pas, à ce moment-là je peux pas participer parce que voilà, c'est compliqué au niveau financier, ça je peux comprendre parfaitement, et j'oblige personne à participer s'ils n'ont pas envie. C'est pour ça que cette fois, j'ai, par rapport à mes autres campagnes, j'ai voulu vraiment proposer multiplier un peu les packs. Là où j'avais un nombre de packs restreint, là j'en ai mis beaucoup plus. Okay. Avec vraiment une fourchette de prix qui est très, très variée. On va de 2€ à 200 pour vraiment le gros, gros pack avec tout dedans. Enfin, voilà, j'ai même voulu proposer un pack, on va dire, premium plus, avec notamment une impression sur PVC, comme je disais, mais en format A0. Donc, c'est énorme. C'est un poster énorme.
Ouais.
Mais je trouvais en fait, j'en ai plein des comme ça chez moi, des impressions comme ça sur PVC. Je trouvais ça super cool et je voulais justement le proposer, puis voir si des fois peut-être qu'il y en aurait quelques personnes qui seraient intéressées. On verra bien. Mais en tout cas, voilà, on va dire, là, il y en a vraiment pour tous les budgets. Donc, ceux qui veulent venir participer, venez. Venez découvrir un peu l'histoire d'Ethan. Et puis voilà, puis j'ai envie de vous faire voyager. Puis j'espère que vous serez au rendez-vous.
Ah, yes. Trop bien. Et il y a un pack avec les 3 tomes.
Il y a un pack, effectivement, avec les 3 tomes. Okay. Et un pack aussi avec les 3 e-books pour ceux qui le veulent. Également. Et oui, effectivement, oui, j'ai prévu un pack avec les trois tomes, avec les marque-pages qui sont associés, avec des illustrations aussi à l'intérieur, et puis d'autres petits cadeaux qui viendront s'y ajouter au fur et à mesure que la campagne réussira. Je vais mettre des paliers en place avec des petits goodies sympas. Voilà, je voulais proposer des choses qui seraient pas encombrantes, en tout cas voilà, qui ressembleraient en tout cas à ce que je veux faire passer dans la saga.
Ok, trop cool. Ok, et dernière question du coup, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil je sais que cette question est horrible, on me l'a posée il y a pas longtemps, j'étais dans une interview Mais du coup, je te la pose. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des auteuristes qui voudraient se lancer en auto-édition? Pas forcément un conseil, mais parce que je pense que tu en as plein à donner, mais on va dire un peu le starter pack que tu aurais aimé savoir, toi, avant de te lancer.
Bon, déjà, faut pas avoir peur d'échouer, déjà. Parce que, forcément, moi, j'en parle des fois des lecteurs qui viennent me voir, qui me disent qu'ils aimeraient bien se lancer en auto-édition. Du coup, je discute avec eux. Et je leur dis toujours, faut pas avoir peur d'échouer, parce que en se lançant en auto-édition, forcément, ils feront des erreurs. C'est obligatoire. Voilà, on ne peut pas arriver dans un domaine qu'on découvre et avoir l'insi, on s'affuse tout de suite. Donc, même si on se renseigne à mort avant, on fera forcément des erreurs, que ce soit voilà, notamment vis-à-vis de l'URSSAF. Parce que voilà, faut s'accrocher l'URSSAF, hein, parce que suivant à quelle heure on appelle et qui on a au téléphone, ils ne disent pas la même chose. Donc, faut s'accrocher, il faut bien se renseigner. Donc, il ne faut pas avoir peur d'échouer, comme je le disais. Et surtout, faut savoir qu'il y aura qu'une carrière d'auteur. Enfin, je ne sais pas si je peux dire. Ça me fait toujours bizarre de dire carrière, parce que voilà, pas mine de rien.
Si,
voilà.
Oui.
Mais en tout cas, voilà, c'est toujours fait de haut et de bas. Il faut savoir profiter des hauts. Et comme je le dis, profiter des hauts. Et savoir faire avec les bas et passer outre. Et se dire que si on chute, c'est pour mieux se relever. Et puis peut-être connaître un sommet encore plus haut la fois d'après.
Je trouve que c'est beau ce que tu viens de dire.
J'aurais dû me noter, mince.
Mais écoute, tu pourras le réécouter quand l'épisode sortira. Non, franchement, je trouve que ce sont des belles paroles, très sensées, et même si c'est facile à dire entre guillemets, c'est toujours compliqué
c'est ça,
à faire.
Facile à dire qu'à faire.
Mais c'est la stricte vérité. Donc, ouais. Écoute, en tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, je te souhaite vraiment le meilleur. Je serai au rendez-vous de ta campagne. Et j'espère que les auditeuristes aussi, enfin en tout cas une partie. Et écoute, merci beaucoup, Kriane, d'être revenue sur le podcast. Peut-être que tu reviendras pour un troisième épisode. Ce sera avec plaisir.
C'est toujours un plaisir, hein, de toute façon.
Écoute, on se donne rendez-vous peut-être pour l'épisode de 200. Là, tu étais venu au 13, tu seras peut-être le 116. Si on fait un 3 à chaque fois, 220 peut-être, 219.
Et une chose que j'ai oublié aussi de dire.
Ouais, dis-nous.
Et alors, je tiens à te remercier également, parce que voilà, il y a un trailer audio qui va être diffusé sur mes réseaux.
C'est vrai, oui.
Je tiens à te remercier, parce que tu as prêté ta voix à l'un de mes personnages dans ce trailer. Et je t'en remercie, voilà, chaleureusement, parce que je trouvais que ta voix était parfaite pour le personnage.
Ah, alors, écoute, parfait.
N'y vois aucun sous-entendu, parce que alors, je l'ai appelé comme ça, parce que voilà, pour que ce soit plus représentatif, mais c'est une oracle très respectée. Et sache que dans l'univers, voilà, elle vit très 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 longtemps.
Donc, ok, très bien.
Tu es la sagesse incarnée, du coup.
Très bien. Mais écoute, moi, quand tu m'as dit ça, franchement, je me suis enregistrée en essayant de coller le plus à ce que tu m'avais demandé. Mais alors vraiment, j'étais là, Mélie, ça va pas du tout. Donc quand je t'ai envoyé les trucs, j'étais absolument pas convaincue. Mais bon, si toi, ça t'a convaincue. On verra si les auditeurs sont convaincus ou pas. Mais je me marrais toute seule. Oui.
Là, au 9 février, il me manque juste une voix pour pouvoir commencer le montage. Et puis, de toute façon, dès que ce sera fini, je te l'enverrai. Et puis, pour que tu me dises si ça te plaît ou pas.
Ok. De toute façon, je pense qu'on n'est jamais objectif avec notre voix. Enfin, à chaque fois, les gens. Enfin, j'ai jamais entendu quelqu'un qui disait j'aime trop ma voix enregistrée. Donc,
oui, c'est pas fou non plus, ça.
Ouais, donc je pense que peut-être je suis pas objective avec ma voix. J'ai l'impression que ça va pas du tout, mais bon. Écoute, on verra. J'écouterai le truc en entier. On verra si ça rend bien, et puis quand ça sortira, de toute façon.
Oui, ça rendra bien.
Je pense que t'auras des retours. Du coup, ouais, trop bien. Écoute, je mettrai aussi de toute façon le lien de ce trailer dans le podcast s'il est déjà sorti. Enfin, dans le lien du podcast, je veux dire. Et sinon, de toute façon, je vous repartagerai en story aussi. Donc, écoute, trop bien. Et écoute, merci beaucoup d'être venu sur le podcast, comme je disais. Et on se donne rendez-vous pour une troisième édition. Et je vous remercie tous et toutes de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Et à y laisser un commentaire si vous le pouvez. Cela m'aide énormément au référencement et à faire connaître le podcast. Si vous voulez venir témoigner d'une expérience qui vous est arrivée en tant qu'auteur ou autrice, ou bien nous faire part d'une difficulté que vous avez réussi à surmonter pour l'écriture de votre premier jet, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou bien à l'adresse mail elise.giraudot.contact@gmail.com. À bientôt.